La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Walid Ajar Rachedi. Vous publiez « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», un premier roman publié aux éditions Emmanuel Colas. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors c'est un roman puissant et percutant que vous publiez, qui fait passer le lecteur par plusieurs émotions, avec une fin dont on ne parlera pas mais qui est inoubliable. Je vous propose de nous parler d'abord du narrateur. Malek Ben Saya est un jeune français d'origine algérienne. Il a grandi en Seine-Saint-Denis. Une partie du livre est consacrée à un voyage quasi initiatique qu'il fera en Espagne, en Andalousie. Il voyagera également au Maroc, en Égypte, en Algérie, puis en Angleterre. Il est musulman, croyant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus ce narrateur ?
Ce que j'avais envie de raconter avec Malek, et vraiment c'est ce qui me passionne dans l'idée de ce personnage, c'est que j'avais envie de raconter l'histoire d'un personnage voilà, qui était très ancré dans sa foi. Pour lequel c'est quelque chose qui le porte et qui en fait sa foi va lui donner une certaine vision du monde et aussi son ancrage voilà dans sa cité Asnin dans 93. Et en fait ce qui me plaisait c'était l'idée que un premier voyage quand il rend en fait visite à son cousin à Lille, donc il est récemment arrivé d'Algérie, en fait en allant là-bas il est confronté à une autre vision du monde, de l'islam, de certain nombre de choses et il rencontre également un Afghan en exil. Et en fait cette première rencontre, c'est-à-dire cette première même presque collision, en fait, bouscule sa vision du monde et à un moment donné, c'est comme si en fait, il a perdu un peu le mode d'emploi du monde et du coup, il a envie de voyager pour aller voir de lui-même ce qu'il en est. Et voilà, c'est un peu quelque part ça que j'avais envie de raconter avec ce personnage et j'avais envie de lui donner aussi beaucoup de lumière. C'est un personnage qui a pas peur de se remettre en cause et de se confronter aussi aux visions d'autres personnes et qui est dans une forme d'écoute.
Et en parlant de lui, Malek dit « S'il y avait une sensation qui caractérisait mon adolescence, c'était bien le sentiment d'avoir toujours été ailleurs. Il dit aussi « Je venais d'un endroit où chacun, vu de sa fenêtre, semblait avoir des idées arrêtées sur ce que je devais faire, croire, être. »
Oui, je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire de Malek, et je pense que c'est le cas de beaucoup de Français, voilà, de confession musulmane, en tout cas élevés dans des familles musulmanes, c'est le fait qu'il y a quelque part parfois cette idée de libre arbitre qui est un peu limitée, et que alors quand on est jeune, en fait, ce qu'on a envie, c'est de décider de sa vie, c'est une quête existentielle, quand on a 17, 18, 19 ans, ce qu'on veut, c'est se définir par soi-même, par ses propres expériences, et c'est vrai que voilà qu'un personnage comme Alec, auquel je pense se reconnaîtront pas mal de personnes, peut-être un peu fatigué de ça et justement bah il a envie de par lui-même ses propres actions, ses propres rêves. Je pense que la question du rêve est hyper importante pouvoir se définir et décider de son avenir.
Alors il y a un passage savoureux dans le roman Walid Ajar Rachedi. Le héros se trouve à Tarifa en Espagne avec l'intention de traverser la Méditerranée pour aller à Tanger et il rencontre deux jeunes filles britanniques qu'il a déjà croisées auparavant. L'une d'elles lui dit « Vous les Français, vous êtes toujours en colère » et il se dit que c'est la première fois qu'il entend quelqu'un l'inclure dans ce « Vous les Français ».
Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose que, voilà, quand on est français, d'origine maghrébine ou africaine ou asiatique, c'est quelque chose qu'on ressent de manière très forte lors des premiers voyages à l'étranger. Et voilà, donc j'ai 40 ans et c'est vrai que moi, je suis d'une génération qui était un peu la génération Erasmus, EasyJet. En gros, c'était la découverte du monde grâce au low cost notamment et puis aux échanges universitaires. Et c'est vrai que, voilà, moi, une des premières réflexions que je m'étais faite en partant à l'étranger, c'était que ce que les gens entendaient dans ce que je disais, la manière dont je parlais, c'était d'abord un français. Et du coup, c'est vrai que je me suis imaginé que ce personnage-là, dans son premier voyage, était confronté à la même chose. Et que pour lui, forcément, ça, il y avait quelque chose d'assez déroutant au départ. Et qu'il y avait une forme de réajustement à avoir. Et en même temps, le personnage trouve ça très amusant puisque, d'abord, il se rend compte que c'est vrai. Et puis, deuxièmement, du coup, c'est comme s'il y avait une sorte de jeu de rôle dans lequel s'insérer, adopter de nouvelles choses. Et d'ailleurs, on joue aussi puisqu'il renvoie ces jeunes filles britanniques à leur propre cliché sur l'Angleterre.
Alors, plusieurs histoires sont racontées dans ce roman, Walid Ajar Rachedi, et c'est à la fin qu'on comprendra vers quoi elles convergent. Il y a l'histoire de deux frères afghans dont le destin est bouleversé par l'arrivée au pouvoir des talibans. Il y a aussi cet humanitaire gallois, d'abord idéaliste puis désenchanté. Sans dévoiler l'intrigue, le narrateur reconstitue peu à peu un puzzle qui réunit des histoires humaines avec la grande histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une fiction où il est question notamment de géopolitique et de terrorisme?
Je pense qu'on a tous été très marqués en 2015 par les attentats qui ont eu lieu Charlie Hebdo, à l'Hyper-Cacher et puis au Bataclan. Moi, dans mon cas, bon, ce sont des quartiers que je connais très bien parce que je travaillais à l'époque dans le 11e et jusqu'à pas très longtemps, j'habitais dans le quartier. Et c'est vrai que voilà, en étant qui je suis, bah, j'avais à la fois des gens que je connaissais parmi les victimes, en tout cas parmi les amis des victimes, en tout cas c'est des lieux de vie dans lesquels on était touchés de plein fouet. Et puis voilà, parmi les auteurs des attentats, notamment un jeune homme qui était de Brive-en-Couronne, où j'ai grandi. Et voilà, sans forcément avoir envie directement de parler de ça, en tout cas, ce que je voyais bien, c'est qu'on était dans une histoire qui était très locale et qui en même temps dépendait d'enjeux géopolitiques beaucoup plus grands. Parce qu'en vrai, voilà, ces actes-là ont lieu en France, mais en vérité sont le fruit de événements géopolitiques majeurs beaucoup plus grands qui nous dépassent. Et en fait, ce qui m'intéressait de raconter à travers l'histoire de ces personnages qui se passent dans les années 2000, bah, c'était de raconter ça à travers effectivement l'histoire de l'Afghanistan. Alors pourquoi je parle de l'Afghanistan? Parce que voilà, c'est un pays qui a une culture qui est magnifique, c'est le pays de Rumi, c'est le pays de grands poètes, et c'est vrai que c'est un pays qui successivement à travers la conquête britannique, puis l'invasion russe, puis les Américains, a été constamment volé de son destin. Et en fait, voilà, c'est une matière romanesque qui est très riche. Et je pense que c'est le symbole de beaucoup de choses et de beaucoup d'affrontements entre guillemets l'Orient et l'Occident. Et puis voilà, c'était aussi à travers ces personnages jumeaux, cette idée voilà de personnes voilà qui sont de jeunes gens qui rêvent comme tout autre, l'un rêve d'être footballeur, l'autre rêve de travailler dans les médias, et qui sont volés de leur destin par des événements qui les dépassent.
Et puis il y a cet humanitaire qui passe sa vie à voyager et qui finalement vit un choc en Afghanistan.
En fait, avec Jeffrey, ce qu'il faut avoir en tête avec cet humanitaire donc qui est choqué à son retour d'Afghanistan, c'est que je pense qu'il correspond à un certain nombre de personnes voilà qui viennent du monde occidental dans ces pays-là avec l'idée au départ de bien faire et qui, comme nous tous peut-être, je sais pas, quand il y a eu la guerre en Irak en 2003, c'était de se dire bah quand Saddam Hussein partira, le pays sera meilleur. Ou là on le voit avec le retour des talibans en Afghanistan, l'occupation américaine pendant un certain nombre d'années, on s'est dit bah finalement ça va vers un mieux et tout. Il y a sûrement des effets très positifs, mais en fait c'est un personnage qui après coup se rend compte que pareil, en fait il est prisonnier d'enjeux qui le dépassent, qui sont beaucoup plus grands, qui dépassent son action. Et en fait Jeffrey c'est un peu une sorte de symbole de l'Occident qui croyait bien faire et puis qui se retrouve en fait face à une forme de désillusion et aussi incapable du coup de s'en relever, de se remettre en cause, et ça va le conduire à une issue assez tragique que je ne dévoilerai pas.
Alors, il y a des passages aussi assez amusants dans la mesure où Malek se rend au Maroc et il a prévu de continuer son voyage en Algérie et il demande aux Marocains « Est-ce qu'il y a un bus qui peut m'emmener en Algérie ?» Il découvre que la frontière est fermée depuis 10 ans.
Oui, effectivement. Bon, là, c'est au vu de l'actualité entre l'Algérie et le Maroc, je pense que c'est pas prêt de s'ouvrir tout de suite. Mais effectivement, je trouve en fait l'anecdote assez marrante. Et pour info, d'ailleurs, j'ai mis énormément de temps à débloquer la situation parce que je ne savais pas comment ça allait s'en sortir. En fait. Parce que je pense que moi-même, en fait, en écrivant l'histoire, en fait, j'ai dû me dire, il va faire en fait un voyage où il va longer toute la côte. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Et en fait, paradoxalement, je me suis dit que ça faisait un très bon twist dans l'intrigue. Et en même temps, j'étais obligé de le faire passer par le Maroc parce que dans mon idée, la rencontre centrale, on va dire la grande histoire d'amour du roman, c'est celle entre Malek et Kathleen, se passait à Tarifa parce que Tarifa, c'est un lieu, voilà, entre deux mondes, hein, entre d'un côté l'Europe et l'Afrique du Nord. C'est la fin du monde à l'époque, avant, on va dire, la découverte, entre guillemets, des États-Unis des Amériques par Christophe Colomb. Donc c'était un lieu hyper central. Donc il fallait que je fasse passer par là. J'étais un peu obligé, donc. Donc je le faisais aller au Maroc, en plus j'aime beaucoup le Maroc et j'avais envie aussi de raconter le Maroc et tout. Et en fait je me suis retrouvé bloqué et c'est arrivé comme ça dans l'histoire, et finalement ça ça aboutit à un passage assez savoureux.
Walid Aja Rachedi, il y a aussi de très belles pages sur le voyage effectué par le narrateur en Algérie. Malek dit « Je cherchais le moyen de regagner cette terre quand d'autres mouraient de vouloir en partir, quand d'autres étaient morts d'avoir voulu y rester. » Et quand il arrive à Oran, il dit ceci « J'ai leur visage, 1 million de fois leur visage, mais je ne partage rien de leur dessein, de leur destin. » Vous pouvez nous commenter ces passages sur le rapport de Malek à l'Algérie?
Je pense que comme voilà beaucoup de Français issus d'immigration algérienne, je pense que voilà cette quête identitaire et à l'Algérie est quelque chose de très fort. Parce que c'est un thème voilà qui jusqu'à aujourd'hui suscite des réactions passionnées en France. Donc c'est vrai qu'il y a il peut y avoir une identification hyper forte à l'Algérie parce que c'est un pays qui a un destin révolutionnaire et tout ce que ça peut engendrer. Et puis en même temps, force est de constater que quand on va en vacances là-bas ou quand on voyage là-bas, c'est aussi le cas pour des gens originaires d'autres pays comme le Maroc ou le Sénégal, ben on se rend bien compte qu'on a vécu autre chose et que forcément, en fait, les préoccupations, la vision de la vie n'est pas tout à fait la même. Et après, quand je dis ça, moi, c'est aussi un titre plus personnel, c'est-à-dire que moi, en 1992, j'ai passé l'été en Algérie. C'était l'été où il y a eu le début de la guerre civile, donc la décennie noire. Et je suis pas retourné pendant 12 ans. Et c'est vrai que quand je suis retourné en 2004, en fait, je me suis rendu compte que le pays avait complètement changé, les mentalités, etc. Et que c'est un pays auquel j'avais passé beaucoup de temps dans les années 80 quand j'étais enfant, et bah, que je reconnaissais plus. Et puis, je pense qu'il y a un moment, une forme de déception, voire même de colère, etc. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait vécu des choses différentes et que forcément, même si je vois beaucoup d'affection, en fait, on était parti sur des trajectoires assez divergentes. De la même manière qu'aujourd'hui, voilà, après 15 ans où j'ai vécu beaucoup à l'étranger, bah, je peux dire un peu la même chose par rapport aux gens en France où parfois, bah, avoir des visions différentes de certaines choses parce que j'ai vécu d'autres réalités. J'habite aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Argentine, etc. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans ce roman, je parle d'un voyage, un long voyage dans le monde arabe. Mais finalement, je pense que je me suis beaucoup inspiré de mes voyages en Amérique latine, notamment, pour raconter cette beauté du voyage. Et j'ai transposé, voilà, dans des pays peut-être que paradoxalement, je connais un peu moins.
Alors, vous nous parlez aussi des goûts culturels du narrateur. Vous racontez comment, adolescent, il prend goût à la lecture. Il n'arrive pas à aimer Camus ou Houellebecq. En revanche, il aime beaucoup Richard White, l'auteur de Black Boy. Et puis, vous nous le montrez aussi en train de visiter un musée en Espagne où il découvre Guernica, la fameuse toile de Picasso. Et il découvre qu'elle est monumentale.
Oui, je pense qu'en France, on a un pays de littérature avec un certain nombre de monuments. Je pense qu'Albert Camus en fait partie, et moi, je trouve que la prose d'Albert Camus est extraordinaire. Mais c'est vrai que là où je rejoins le narrateur, même si, voilà, c'est pas quelque chose d'autobiographique, mais c'est quelque chose, en tout cas, je me suis imaginé que le narrateur du roman avait un peu la même réaction, c'est que quand on est français d'origine algérienne et qu'on est de cette génération-là, quand on lit Albert Camus, qu'on vous dit oui, ça se passe en Algérie, en fait, on comprend pas de quel pays on nous parle. Parce que bah parce qu'il y a pas de il y a pas d'arabe en fait il y a pas d'arabe dans le roman. Et comme disait Kateb Yassine, c'est vrai que Faulkner était un peu le Camus américain, mais Faulkner donnait vie à des personnages afro-américains qui étaient dans la ville, dans la vie, alors qu'Albert Camus voilà en fait des éléments de son décor. Et du coup je me suis dit bah enfin voilà, ce personnage là forcément quand il lit Camus, on lui dit ça parle de l'Algérie, il dit mais de quoi on me parle. Et du coup il reconnaît que c'est bien écrit, que c'est beau, mais en même temps il voit pas. Enfin, il reconnaît pas là-dedans. Et pareil pour Michel Houellebecq, on lui raconte que c'est le grand écrivain français contemporain. Donc il se rend bien compte que c'est l'archétype de ses personnages quand il prend les transports en commun, le RER de 7h43 de Pierre Fitzstein, comme je le dis dans le roman. Bah, il le voit, ce personnage-là, cet archétype qui ressemble au personnage de Michel Houellebecq, qui est un peu un personnage un peu désenchanté, amer, etc. Et puis en même temps, il se dit, mais c'est bizarre parce que la manière dont lui voit les lieux que nous fréquentons l'un comme l'autre, en fait, on a des visions diamétralement opposées. Et forcément, quand il lit Richard Wright, donc un écrivain afro-américain qui raconte sa condition noire aux États-Unis, et cette idée un peu de double vision, c'est-à-dire cette idée de comment lui se perçoit lui-même en tant qu'afro-américain, mais aussi comment la société perçoit, bah en fait, il se retrouve dans ces réflexions-là, dans cet entre-deux-là, et que c'est quelque chose qui lui parle. Et puis aussi, Malek, voilà, même si c'est pas un élément central du roman, que c'est pas forcément un féru de culture rap ou hip-hop, forcément, je pense, j'imagine qu'un personnage comme ça se reconnaît dans les références jazz, dans la musicalité d'un texte comme celui d'écrivain Richard Wright.
Walid Ajar Rachedi, il y a une phrase sur laquelle j'aimerais que vous reveniez. Toutes les histoires ont déjà été racontées. Il n'y a que la voix de celui qui raconte qui change. C'est ce que dit Kathleen Amalek, une phrase qui le fait profondément réfléchir. Cela pourrait être appliqué à la littérature.
Oui, exactement. Enfin, ça, c'est une phrase, en tout cas, une chose, moi, que je me suis souvent dit en tant qu'auteur, parce que, bon, quand on commence à écrire, il y a ce fantasme, cette idée, je vais raconter une histoire que personne n'a jamais racontée. Je pense que pendant longtemps, en fait, on fait fausse route en se disant que ce qu'il faut, c'est en mettre plein la vue et puis raconter une histoire, en fait, incroyable, avec des péripéties, etc. Et en fait, plus on avance, plus on lit, plus on écrit, et plus on se rend compte qu'en fait, toutes les histoires ont déjà été un peu racontées. Vous prenez la Bible, il y a l'essentiel des grandes histoires de l'humanité. Et finalement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de lire un nouveau roman? C'est parce que la manière dont les choses sont racontées, la voix qui incarne ces histoires est différente. Elle est teintée de la sensibilité de l'époque, de l'auteur, de l'autrice. Et c'est ça qui rend en fait une histoire passionnante. Parce que sinon, en tant que telle, les intrigues en tant que telles, je pense que la majorité des intrigues, finalement, ont déjà été créées. Et ce qui est, c'est aussi une métaphore par rapport à l'histoire du monde, c'est-à-dire que l'histoire racontée du point de vue d'un des deux jumeaux afghans, l'histoire racontée du point de vue de Malek, puis de Kathleen, c'est la même histoire, c'est notre histoire de notre monde globalisé, mais qui en fait sont différentes parce que leur vécu et leur sensibilité est différente. Et finalement tout converge parce qu'on partage une même réalité, mais on partage des points de vue différents sur cette même réalité. Et quand ces points de vue en fait rentrent en collision, bah ça donne une fin assez complexe et assez inoubliable, comme vous le disiez plus tôt.
Merci Walid Ajar Rachedi. Je renvoie nos auditeurs à votre très beau roman « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?» aux éditions Emmanuel Colas. Un roman que je recommande à tous les auditeurs de la bibliothèque de Radio Orient. Un premier roman véritablement à lire aujourd'hui. Merci Walid Ajar Rachedi.
Merci Luc Barrière, à très bientôt.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.